Voilà, écoutez, messieurs, dames, bonsoir. C'est un vrai plaisir d'être ici. Dans la région parisienne, on m'a dit qu'on est à la frontière de l'Île-de-France et la Bourgogne. C'est juste pour tous ceux de l'Île-de-France. Donc voilà, on est très content d'être ici. Merci Nicolas pour l'invitation. Et c'est vrai que je ne vous attendais pas trop. Je suis avec mon épouse, Mère, qui est ici. Et on ne s'attendait pas trop à voir du monde qu'on connaissait d'avant, parce que, en fait, il y a 32 ans en arrière, eh bien, j'étais nouveau missionnaire arrivé en France et nous avons atterri en premier lieu pendant un an et ensuite on est monté à Paris parce que l'AEI nous avait suggéré d'aller à l'église de Rueil-Malmaison. Et donc j'étais là-bas pendant 10 ans et une des personnes, par la grâce de Dieu, que j'ai vu venir à Christ, s'appelle Jean-Pierre Capax, eh bien, a repris l'église. Et donc il y a Yvette et Annie, je crois aussi, tu es là. Et on m'a dit, ouais, super, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment 32 ans que c'est pas même. Non, non, il y en a 22 ans, 22 ans que c'est pas même. Incroyable. Et donc, quand l'église a été remise dans les mains de Jean-Pierre, eh bien, nous, on a été libres d'aller autre part. Et donc, moi, j'ai en fait grandi à Genève. En tant qu'enfant, je raconte peut-être cette histoire au fur et à mesure du week-end. Et j'ai grandi là-bas en tant qu'enfant non chrétien. Plus tard, je me suis converti. Et donc, depuis ma conversion, j'avais toujours envie de retourner à Genève. Et donc, le Seigneur a ouvert la porte pour que je puisse retourner là-bas. Et donc, j'avais maintenant 22 ans qu'on est à Genève. Et je suis pasteur. Et là, ça fait maintenant 11 ans qu'on est dans une église qu'on a démarré il y a 11 ans en arrière. Et dans les quelques années à venir, j'espère qu'on va pouvoir la passer à quelqu'un. Et ensuite, on verra bien ce que le Seigneur va faire après ça. Et voilà un petit peu où on en est. Donc, c'est un vrai plaisir d'être de retour dans la région parisienne, et de pouvoir vous parler de ce sujet assez particulier, assez clair et net sur le sujet. Donc là, on va pouvoir se contourner le sujet, d'accord, sur le rôle de la femme de l'Église. Donc, en premier, je vais prier, et ensuite, on va aborder notre sujet. Alors, prions ensemble. Seigneur, merci pour cette soirée, merci pour ce week-end. Et merci, Seigneur, pour le sujet qui est un sujet important aujourd'hui, qui révèle beaucoup de confusion, semble-t-il, dans le monde, mais aussi dans l'Église, par rapport au rôle de la femme, Seigneur, et qui aussi implique le rôle de l'homme, ça on en parlera, Seigneur. Et je te remercie pour chacun et chacune qui est ici, et nous te demandons, Seigneur, de nous ouvrir la compréhension de ta parole par rapport à ce sujet, et qu'il soit beaucoup plus que simplement un sujet sur ce point-là, mais au fur et à mesure qu'on avance, qu'on puisse vraiment tirer les applications qui peuvent nous aider chacun et chacune dans notre vie quotidienne aujourd'hui. Donc merci de tout cœur, Seigneur, et bénis maintenant cette soirée au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, je ne commence d'habitude jamais avec un ordinateur, donc je vais juste prendre 5 minutes avec mon ordi, parce que mon intro, je vais vous l'imprimer, d'accord, vous êtes là. Et ensuite, je vais prendre mon autre médium préféré pour vous parler ce soir. Donc, ce soir et demain, 3 messages sur le rôle de la femme dans l'Église. Alors, il faut dire qu'il y a une controverse majeure qui existe dans l'Église aujourd'hui. En fait, elle a commencé il y a plus de 30 ans, peut-être plus avant ça. Et ce sujet s'appelle, en fait, le mouvement féministe. Il y a une avalanche de littérature féministe qui affirme qu'il n'y a aucun besoin de différencier les rôles des hommes et celui des femmes, et soutient une optique comme quoi il n'y a pas de différence du tout entre hommes et femmes, et d'avoir ou de marquer une différence est en fait discriminant, c'est ce qu'ils disent. Ce mouvement, bien entendu, a influencé le mouvement évangélique. Il est devenu un mouvement qui s'oppose à tout leadership qui se dit unique à l'homme, que ce soit au niveau de la famille ou que ce soit au niveau de l'Église. Être homme ou femme, selon ce mouvement, n'a rien à voir avec les critères pour le leadership de l'Église. Alors, beaucoup d'évangéliques ont défendu et défendent cette position dans leurs écrits. Et ce qui est intéressant, et j'ai envie de dire inquiétant aussi, c'est de constater que ces personnes ne rejettent pas l'autorité de la Bible, ni sa véracité, mais donnent plutôt une nouvelle interprétation de la Bible pour avancer leur position. Ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui des féministes évangéliques, car ces personnes, et c'est ça qui est intéressant, la plupart sont pleinement engagées à Jésus-Christ. Et donc, ça persuadait beaucoup de chrétiens d'aller dans leur sens. Alors, le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans le monde évangélique. Il y a beaucoup de confusion. Nous avons vu ces dernières années des mouvements et même des dénominations entières capitulées à la position féministe. Comme, par exemple, moi j'ai grandi dans ce qu'on appelle l'église épiscopalienne. C'est l'église anglicane mais austérie, d'accord? L'église dans laquelle j'ai grandi aujourd'hui, épouse pleinement le ministère féminin, comme les anglicans. Et de plus en plus d'églises évangéliques traditionnelles font le saut également. Moi, je connais une église, en fait, qui récemment a explosé à cause de ce sujet. Le pasteur que je connais très bien était un homme convaincu, traditionnel, conservateur, et pendant 20 ans, une super église, et d'un jour à l'autre, il a changé d'avis sur cette chose, et ça crée un bond dans l'église, il est parti, et la moitié de l'église est partie avec lui. Donc, c'est un sujet chaud, un sujet qui peut vraiment diviser les églises, malheureusement. Malgré ces exemples, et on entend parler de ces exemples, de mouvements qui adoptent ce ministère féminin, la grande majorité des évangéliques, encore aujourd'hui, n'ont pas épousé le mouvement féministe évangélique et concluent franchement que l'enseignement de la Bible et l'enseignement traditionnel de la Bible est encore OK pour aujourd'hui, est encore à jour aujourd'hui. D'accord ? Mais le débat n'est bien sûr pas terminé, et en fait, on a l'impression que le débat s'intensifie avec le temps. Alors, mon objectif ce week-end, et à la demande de Nicolas Bianco, est d'essayer d'éclaircir les points saillants sur le sujet et de considérer pile en main certains des textes clés sur le sujet pour qu'on puisse vraiment comprendre qu'est-ce que c'est qu'on doit croire. Et les trois messages que je vais vous apporter, ce sont trois messages que j'ai déjà donnés quand j'enseignais quelques années en arrière le livre de 1 Timothée, parce qu'on va se concentrer demain surtout sur le chapitre 2. Donc ce sont des messages que j'ai déjà donnés, que j'ai un petit peu retapés, et nous allons vraiment avancer verset par verset surtout demain. Et ce qui est vraiment super, c'est que quand j'ai donné ces messages il y a quelques années, eh bien, je suis sorti vivant de mon église, d'accord? Et j'espère que je vais pouvoir sortir vivant ce soir, et surtout demain, parce que lundi, on aimerait visiter la ville de Paris, d'accord? Donc j'espère que vous allez nous permettre de sortir vivant. Donc ça, c'était l'introduction. Donc, ce que j'aimerais faire ce soir, pour la première partie, avant d'attaquer les textes en détail, c'est de vous parler de la dignité de la femme dans la Bible. Parce que le problème de ce sujet, c'est qu'on pourrait se dire... Ah, excusez-moi, je suis désolé. Parce que ce sujet, le problème, c'est qu'il pourrait donner l'impression que la position conservatrice est anti-femme, ce qui n'est pas du tout le cas, d'accord? Donc ce que j'aimerais faire, c'est de reculer plusieurs millénaires, et j'aimerais essayer de comprendre quel était le statut des femmes dans le passé, et voir l'évolution de la statut de la femme au travers des siècles. J'espère que vous avez trouvé très intéressant, moi je trouve ça absolument fascinant, d'accord? Alors, reculons à la Grèce ancienne. Quel était le statut des femmes dans la Grèce ancienne? Dans la Grèce antique, là on est en train de parler 600 ans avant Jésus-Christ, la femme était passée presque au niveau de l'esclave. Leur mari avait plein de pouvoir sur elle également, mais Platon a affirmé l'égalité des sexes, ses idées étaient exceptionnelles. Aristote, lui, affirmait que les femmes étaient inférieures aux hommes, et cela de manière inhérente. Donc, elles étaient nées inférieures, c'est ce qu'il disait. Le seul rôle réel des femmes était celui de la procréation, de mettre des enfants au monde. À Sparte, par exemple, les femmes étaient cultivées physiquement afin de créer des garçons baraqués et forts. Et une fois qu'ils avaient passé l'âge de la maternité, elles ne valaient plus rien. Elles étaient globalement mises de côté et ne partageaient pas le côté social ni intellectuel de leur mari. Son rôle était au rôle domestique. Démosthène décrit le statut de la femme comme ceci, les hétérailles, donc les prostituées, nous les avons pour le plaisir, dit-il. Les concubines, nous les avons pour les besoins ordinaires du corps. Et nos femmes, nous les avons pour qu'elles nous donnent des enfants légitimes et qu'elles soient les fidèles gardiennes de nos maisons. C'est seulement après Alexandre le Grand que les femmes ont commencé à avoir une plus grande liberté, et surtout en Macédoine, dont Cléopâtre, par exemple, mais cela toujours est resté une minorité. Donc bref, en Grèce ancienne, le statut des femmes était très inférieur à celui des hommes. Qu'en est-il du statut des femmes dans la Rome ancienne, Rome? Eh bien, le statut des femmes s'améliorait. En Rome antique, légalement, toutefois, la femme était considérée bien un bien et sous la propriété de son mari. En réalité, la femme jouit d'une plus grande liberté qu'en Grèce, mais pouvait davantage partager la vie de son mari. Mais ceci a pris du temps. Les femmes ont cherché à être émancipées de l'emprise de leur mari despote. Deux fois dans l'histoire de la Rome, il y a eu des empoisonnements en masse de maris par leurs femmes. Donc les femmes ont empoisonné leur mari parce qu'il les traitait mal, d'accord? En 333 avant Jésus-Christ et en 180 avant Jésus-Christ. Et ce désir d'émancipation a mené également à une croissance de laxisme moral. Ça va? Ça sonne. Voilà. Je suis trop prévu, moi. Ça? Il nous a dit que dans le dernier siècle avant Christ, que presque chaque vice était présent à Rome, l'immoralité, la pédophilie, l'avortement, l'infanticide, l'avarice, la cruauté, le jeu, le suicide, l'indécence dans les images, les courses publiques sur la scène. Bref, le lot des femmes s'est amélioré par rapport à la Grèce, mais cela a pris du temps. Cette amélioration de la liberté chez la femme ensuite a aidé à la propagation de l'évangile, car les femmes pouvaient maintenant participer à des célébrations religieuses. Ça, c'est pour Rome. Qu'en est-il du statut des femmes dans le judaïsme? Le judaïsme. Eh bien, dans le judaïsme, il faut dire que le statut des femmes reste un petit peu un mystère. D'un côté, il y avait des dictons très célèbres et connus qui disaient, lors des cérémonies dans les synagogues, je cite, « Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, car tu ne m'as pas créé une femme. » C'est le genre de prière que vous pouvez entendre à l'école. De l'autre côté, le livre des Proverbes honore la femme vertueuse. Proverbe 31, on verra plus tard. Donc, on ne sait pas trop. C'était positif ou c'était négatif. Globalement, il faut dire, et là on le voit dans la Bible, que le judaïsme prenait une conception intérieure de la femme par rapport aux hommes. Enfin, pas dans la Bible, ça c'est ce que les Juifs disaient. Les rabbins considéraient que les femmes devaient recevoir la moitié de l'instruction des garçons. Certains domaines d'instruction étaient interdits aux femmes, comme le droit. Et les rabbins pensaient que l'esprit de la femme était inférieur à celui des hommes et qu'elles étaient incapables de comprendre, par exemple, les investigations légales. Mais on les insultait quand même. Ceci dit, l'Ancien Testament a grandement haussé le lot des femmes dans le monde. Leur lot était plus élevé que le lot des femmes à Rome et en Grèce, ça c'est sûr, pour le judaïsme. On avance. Quel est le lot des femmes dans le christianisme? Alors ça, on y reviendra dans un petit moment. Quand on y reviendra. Donc on passe au l'an prochain. Quel est le statut des femmes de nos jours, aujourd'hui? Eh bien, comme je vous l'ai dit, le mouvement féministe du XXe siècle a attaqué le point fait le rôle traditionnel chrétien de la femme. Dans le passé pas plus lointain, les femmes avaient des rôles de support pour la plupart et ressortaient leur joie et leur dignité dans leur rôle en tant qu'épouse et mère. J'ai envie de répéter cette phrase parce que ça fait 15 ans aujourd'hui qu'on dit ça. D'accord? Je vous dis cette phrase. Dans le passé pas si lointain, écoutez bien, ma mère était dans ce cas, d'accord? Les femmes avaient des rôles de support pour la plupart et recevaient leur joie et leur dignité dans le rôle en tant qu'épouse et mère. Il n'y a pas si longtemps, d'être épouse et maman, c'était super. C'était quelque chose rempli de dignité. Aujourd'hui, si tu es maman et tu ne travailles pas et tu es que épouse et que maman, c'est un peu compliqué. Non, à l'époque, et quand tu vois ça, le foyer était au centre de leur activité, donnant un refuge pour toute la famille et un refuge de bien-être et d'équilibre. Mais commencer les choses bien changer. Les femmes ont décidé qu'une vie de vie était dévalorisante, ont exigé vouloir travailler à l'extérieur du foyer et avoir elles aussi des bons jobs pour gagner un salaire important comme leur mari. Alors les enfants, du coup, ont trouvé une autre solution. Comme le foyer parental, ils ont été mis dans les crèches pendant que les mamans et les papas travaillaient. Les valeurs traditionnelles sexuelles aussi ont changé et ont subi une révolution. La promiscuité est devenue la norme, le mariage a baissé, le concubinage a augmenté, le divorce a explosé, les familles ont éclaté et les enfants se sont trouvés paumés et abandonnés. Les femmes sont devenues plus agressives, revendiquant leurs droits, même le droit à avorter leur bébé, car ceci est le résultat souvent d'une promiscuité sans limite déranger leur projet. Alors aujourd'hui, il y a un nouveau problème qui serait celui du mouvement féministe dans l'Église. Dans l'Église. Ça s'appelle souvent des féministes bibliques, on en a déjà parlé un petit peu, ces personnes sont convaincues que les textes bibliques qui préconisent une différence de rôle entre l'homme et la femme sont erronés et que l'interprétation traditionnelle de ces versets doit être revue. Et donc, ça, on va aller voir, on va voir le texte clé de la matin et l'examen. Alors, avec tout ça, comment on fait pour s'en sortir? Comment on fait pour comprendre? Eh bien, je crois que c'est très important pour nous de reculer un petit peu encore et de comprendre quel est le statut des femmes dans la Bible. Il me semble capital en premier de regarder la Bible et de voir vraiment ce que la Bible dit de la femme et comment elle perçoit la femme et le rôle de la femme. Et comme on l'a dit tout à l'heure, nous croyons à l'inspiration de la Bible de Timothée 3:16. Croyons que chaque mot dans la Bible est inspiré de Dieu. Et Dieu nous a donné assez clarté dans sa parole pour que nous puissions comprendre ce qu'il a voulu nous communiquer. Ça, c'est sûr. Donc, les principes fondamentaux du rôle de la femme se trouvent dans la Bible. Et en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va voir ce soir, les principes fondamentaux de ce du rôle de la femme se trouve en fait dans les trois premiers chapitres de la Bible. Les trois premiers chapitres de la Bible dans le livre de Genèse. Donc prenez vos Bibles et allez ouvrir la Genèse chapitre 1, d'accord? Et regardons en premier la dignité de la femme honorée avant la chute. On va voir que la femme, et là c'est ce que je veux faire ce soir, c'est de vous montrer combien la Bible honore la femme. Regardez Genèse 1, 26 à 28. Il est dit ceci. Dieu parle et dit, puis Dieu dit, Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors regardez ce qui se passe, c'est vraiment intéressant. Au verset 27, il est dit ceci. Dieu créa l'homme à son image, il le crée à l'image de Dieu, il crée l'homme et la femme. On est au sixième jour de la création. Dieu crée l'humanité en deux sexes à son image. Rien dans le texte suggère une quelconque différence entre l'homme et la femme. En fait, ceci est la première description de l'homme et de la femme dans la Bible. Ce que nous apprenons, c'est qu'ils furent créés par Dieu, totalement égaux, créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont été créés à la ressemblance de Dieu, dotés de caractéristiques qui sont propres à Dieu. Ils possèdent les deux, une personnalité, l'intelligence, l'émotion,
la volonté, il peut conclure de réfléchir, sentir, choisir. Allez dans la prière. Verset 28, maintenant Dieu dit, Dieu les bénit, et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu les bénit les deux. Il leur demande d'être féconds, de multiplier, d'assujettir la terre, de dominer sur les animaux. C'est intéressant, les deux doivent régner ensemble. Il leur donne la responsabilité d'être co-gérants de la terre. Et ça implique quelque chose de très pratique en ce qui concerne le rôle de la femme de nos jours, au niveau de leur travail séculier. Si elle travaille, leur travail, le travail d'une femme dans le monde séculier ne devrait pas être différent que celui de l'homme. Les femmes sont aussi compétentes que les hommes. Ils sont égaux dans ce domaine-là. Si l'homme et la femme ont la même relation avec Dieu, les deux sont créatures d'image et dans leur rapport aussi avec la femme. Donc ce qu'on apprend, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, ils sont les deux créés à son image, la même image, des êtres spirituellement et moralement égaux. Mais on apprend encore quelque chose d'intéressant dans le chapitre 2, 18. Il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça c'est vraiment intéressant, d'accord? Dans 2, 18, l'Éternel Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Écoutez bien ce qu'on vient d'apprendre ici. Nous apprenons au verset 18 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela implique une dépendance et son besoin d'une femme. C'est-à-dire que l'homme a besoin de la femme, c'est ce qu'il est dit ici. Apparemment, chacun a besoin de l'autre. Donc, dans Genèse 1, nous apprenons qu'elle a été créée, regardez verset 2:18, l'Éternel Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, on apprend que la femme a été créée pour être une aide à l'homme. Il les a créés au égaux, mais en même temps, ils sont différents. Bien qu'ils soient égaux en nature, ils ont été créés différemment dans leur rôle. Si la femme a été créée pour être une aide à l'homme, ça implique qu'il y a une différence et qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour être complétés. Et n'oublions pas que cette différence qui est notée est avant la chute. Avant la chute. Ce n'est donc pas la conséquence du péché, puisqu'il n'y avait pas encore de péché. Ce n'est pas non plus quelque chose de négatif ni dégradant. L'homme fut créé d'abord et la femme fut créée après, de lui pour lui, avec le rôle spécifique d'être son aide. Alors, dans deux livres, qu'est-ce que ça veut dire d'être son aide? Alors, je regarde dans le dictionnaire. Aider, être en support, appuyer en apportant son aide, assister, épauler, protéger, seconder, secourir. Soulager, soutenir. Et c'est intéressant, il dit qu'il doit être une aide semblable, semblable à lui. Destiné pour lui, c'est exactement ce qu'il lui fallait. Donc, le rôle de la femme est différent de celui de l'homme. Alors, question que je me suis posée, est-ce que c'est dégradant? Est-ce que c'est dégradant? Est-ce que quand vous aidez quelqu'un, quand quelqu'un veut déménager, vous l'aidez à déménager, est-ce que c'est dégradant? Non, c'est un honneur de pouvoir aider quelqu'un. Et c'est intéressant, c'est le même mot, aider, qui est écrit pour Dieu qui aide son peuple. Par exemple, dans l'Exode 18:4, ou dans l'Exode 33:7, ou dans le psaume 33:20, il est dit que Dieu aide son peuple. Donc on va dire que c'est une chose dégradante si Dieu aide son peuple. Donc elle est une aide. Deuxièmement, on apprend qu'elle a été créée à partir d'Adam. Alors, de nouveau, on est entré au mot que les différences, d'accord? Donc, elle est totalement égale à l'homme, mais elle est différente avant la chute, premièrement parce que c'est une aide, Et deuxièmement, parce de la manière qu'elle a été créée. Rappelons, chapitre 2, verset 21, « Alors l'Éternel le fit tomber en profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. » Alors, moi je prends ça littéralement. Moi je pense qu'il y avait Adam, qui a pris une côte, parce qu'il a formé une femme. D'accord ? Alors, ils ont été créés différemment avant elle. Elle a pu créer de la côte de l'homme. Pourquoi ? Lui de la poussière de la terre, elle de la côte de l'homme. Pourquoi ? Eh bien, cela souligne le fait qu'elle correspond à l'homme, os de ses os et chair de sa chair, puisqu'il était pris de la côte, aucune supériorité ou infériorité sur les mots. On voit que toute l'humanité en fait vient de cette source de l'homme. Il est la tête quelque part de toute l'humanité, du fait qu'elle a été prise de l'homme. Alors, c'est intéressant que bien qu'il n'y a aucune différence de nature entre les deux, cela dit qu'il y a quand même une différence de fonction entre eux. La femme a été créée pour aider son mari, et de cette fait dépend de lui. Et donc, de la même manière qu'elle suit son mari dans la création, eh bien, on va le voir, elle va le suivre dans son œil en tant que femme. Donc, c'est intéressant. Premièrement, une aide. Deuxièmement, créer d'Adam, donc ils sont différents de nous, c'est ça de le montrer. Et là, on voit de nouveau, car Adam lui donne en plus son nom. Il lui donne en plus son nom. Donc, 2:23, et l'homme dit, voici cette fois, cette fois, que les os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ah, ça, c'est intéressant. Adam lui donne son nom femme. Homme en hébreu c'est ish, femme en hébreu c'est isha. C'est homme féminin. Homme féminin. Ce terme d'un côté montre la similarité entre l'homme et la femme, mais également la différence entre les deux. Ils sont les deux humains, ish, mais ils ont une fonction différente. Elle est isha en hébreu. Homme féminin. Donc vous voyez toutes ces petites différences qu'on est en train de mettre ensemble. Là, on voit que l'homme et la femme sont d'un côté les deux créés à l'image de Dieu. Totalement égaux, mais avec des fonctions différentes, même avant la chute. Des fonctions différentes. Alors, question. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est un arrangement juste? Est-ce que c'est juste que Dieu a créé l'homme et la femme différents dans leur rôle? Alors, nous, on réagit à ceci, cette hiérarchie des rôles, car nous pouvons ne pas comprendre, mais imaginer que cette hiérarchie puisse être bonne, et la raison que nous avons l'appel, c'est parce que pour nous, tout est teinté par le péché. Mais ce qui est intéressant ici, ces différences sont libérées avant même que le péché existe. Ils sont dans le jardin d'Éden. Donc, si Adam, puisqu'elle était là pour aider, Adam, si Adam menait déjà le couple à l'époque, c'était une autorité d'amour, de finesse, de gentillesse, de courtoisie, d'honneur et de bonté. Donc, Adam, avant la chute, c'était le prince charmant, quoi. Et il faisait tout pour aimer sa femme, et elle, oh, mon prince charmant, c'est fantastique d'être avec toi. Et c'était la perfection, quoi. Parce qu'il n'y avait pas le péché. Ils étaient heureux dans leur rôle. C'était leur rêve d'être menés par un homme de ce type. Tellement rempli d'amour pour elle. Vous savez, c'est marrant. Ça, beaucoup de films, les dessins animés par Disney, c'est la belle ou la maman qui attend le prince charmant de venir la réveiller. Et bien, oh, tout le monde est content, on aime tous ces films. Ben, c'était ça avant la chute. C'était vraiment ça. Rien de négatif. Tout était positif. Tout était beau. Tout était parfait. Même avec le rôle différent. Nous avons appel à comprendre ça. Parce que nous, tout ce qu'on connaît, on a l'impression, et c'est ce qu'on voit dans les médias, c'est ce qu'on voit autour de nous, on connaît des situations. Nous, on connaît la tyrannie, l'abus de pouvoir, des relations d'autorité mal tournées, perverties. Nous voyons les conflits, des disputes qui résultent souvent dans les divorces, Nous voyons des hommes et des femmes qui s'abusent l'un et l'autre, mais dans le jardin d'Éden, rien de cela n'existait. Donc, ils étaient égaux devant Dieu, et leur rôle différent, ils étaient parfaitement satisfaits. Et en plus, ils avaient une relation parfaite avec Dieu, ouverte, un dialogue ouvert. Ni l'un ni l'autre ne doutait de leur valeur, ni de l'autre. Ils fonctionnent en harmonie parfaite. L'homme monnaie, la femme aidait du plus grand bonheur des deux. Ils étaient encore une chair. Et le côté rebelle n'est jamais franc. Il n'y a jamais de maltraitance dans un monnaie. Jamais. Donc elle ne percevait pas du tout son rôle d'être comme étant une chose dégradante, du tout. C'est un peu, j'essaie de comprendre. Imaginez que vous êtes une truite. Vous êtes en l'eau, d'accord, vous êtes une truite. Vous êtes en l'eau, vous êtes en train de nager, vous êtes content d'être une truite parce que vous pouvez nager vite. Et là, vous regardez à travers l'eau limpide et vos yeux vous permettent de regarder dans l'air. Et vous voyez un aigle en train de voler. Est-ce que vous croyez que la truite dit « Ah, mince, c'est pas, moi je suis truite, mais moi je veux être un aigle et voler, moi je suis insatisfait de mon rôle de truite. » Quoi, l'aigle est là en train de voler et dire « Ah, mince, moi j'ai envie d'être une truite, quoi. Moi je suis insatisfait de mon rôle d'aigle. » Non, comprenez, c'est ridicule. Non, ils sont satisfaits avec leur rôle, leur fonction différente d'aigle et la truite. Mais c'est exactement pareil pour l'homme et la femme avant la chute. Alors ça, c'est bon de décrire tout ça, mais c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le deuxième point, la dignité de la femme brisée lors de la chute. Tout change à partir du chapitre 3. Le chapitre 3 de Genèse, eh bien, regardez ce qui se passe. Le serpent était brisé de tous les animaux et les champs, et l'Éternel lui avait fait. Et il dit à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas du tout des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit, et en mangea, et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, elle, il en mangea. Alors écoutez, les amis, ces versets ont bouleversé l'harmonie et la complémentarité heureuse dans le couple depuis ce jour. Contrôlant le leadership de l'homme, le serpent s'est acharné sur la femme, qui par destin était celle qui devait suivre. Hein? Elle devait suivre. Non, le serpent lui a fait des belles promesses, contredisant de manière flagrante la parole de Dieu. Elle l'a écouté, elle a mangé du fruit interdit, et puis elle a persuadé son mari de faire de même. Et ça, c'était le commencement, mes amis, de l'attaque du leadership de l'homme. Et du mari dans le monde. Elle a péché en cédant au tentateur, mais aussi du fait qu'elle a agi indépendamment de son mari, sans le consulter au préalable. Et lui a péché du fait qu'il a désobéi à Dieu, mais aussi du fait qu'il a succombé à l'usurpation de son leadership par Ève, repoussant ainsi l'exercice de l'autorité qui lui avait été donnée par Dieu. En fait, elle conduit son mari au péché, et la conséquence est immédiate. Verset 7, les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus, ils ont cousu des feuilles de figuier et s'enfuirent des ceintures. C'est une pierre formidité. C'est pour ça que je porte des habits. Verset 8, ils se cachent du Seigneur. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face du jardin, qui cachent. 3, peur de Dieu, le verset 9, mais l'Éternel dit à l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur. Tout change dans le jardin de Dieu. Il a peur. Et ensuite, accusation, excuse et accusation. Accusation. Verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné une arme et j'en ai mangé. Ouais, c'est toute sa faute à elle. L'Éternel Dieu dit à la femme, mais pourquoi tu fais ça? La femme répondit, non, mais c'est tout à coup du serpent. Tout le monde s'accuse. Tout le monde s'accuse. Mais ce qui est encore plus grave, ce sont les conséquences long terme. Au verset 14, regardez, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux et les champs. Donc, il maudit le serpent. Deuxième conséquence très grave, verset 15, je mettrai inimitié contre toi et la femme, entre ton lignage et ton lignage, celui-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. La femme est maudite dans les souffrances de ses grossesses. On continue verset 16 et dit à la femme, je vanterai les souffrances des grossesses, tu enfanteras les douleurs et tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera vers toi. Donc, la raison, ma femme me disait l'autre jour parce qu'elle avait un gros mal d'oreille et elle a dit, si le médecin me dit, sur 1 à 10, j'ai mal, comment? Elle a dit, bah, je vais lui dire, écoutez, une grossesse et mettre un enfant au monde, ça fait mon âge, c'est 11 sur 10. Pour mon oreille, c'est environ 9 ou 10 sur 10. Ça. Donc, ça fait vraiment mal, écoutez, voilà la raison, mesdames, c'est verset 16. Voilà, quand vous avez mal, quand vous avez des enfants au monde, d'accord? Alors, il y a ce qu'il y a à l'homme au verset 17, la conséquence à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel tu avais donné cet ordre, tu en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Et ensuite, il dit au verset 19, c'est par la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Si tu es mécontent du travail, tu t'en as marre, et tu penses que c'est la galère, ça, c'est à cause du verset 19. Il n'y a aucun travail qui est 100% parfait. Pourquoi? Parce que le monde a sué dans le travail. Voyez-vous, le péché a contaminé le monde, et tous les domaines ont été touchés. Mais, ce que j'aimerais vous montrer, c'est quelque chose que peut-être vous n'avez jamais vu, je ne sais pas. Verset 16, regardez. Une des conséquences du péché sur la femme. Il dit à la femme, je montrerai la souffrance de tes grossesses. Ok, regarde la suite. Tu rencontres les douleurs, ok, je vais regarder. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Cette phrase, mes amis, elle est incroyable. Écoutez bien. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors, il faut bien comprendre le contexte ici. C'est une malédiction. Dieu est en train de maudire la femme. Donc il lui dit, elle aura des grossesses douloureuses, et deuxièmement, que tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Alors certains disent, ah oui, ben ça veut dire qu'à partir de maintenant, Dieu va te donner des super désirs sexuels. Ah bon? Mais t'as vu là, c'est pas une malédiction, ça. C'est une malédiction, ça ne va pas être ça, ça ne va pas être la réponse. Ça, d'avoir des super désirs sexuels, ça c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. D'accord? Mais là, c'est une malédiction, ça ne veut pas dire ça. Non, le mot désir veut dire contrôler, contraindre, obliger, forcer. C'est le même mot et la même structure utilisée dans le contexte Paul que Genèse 4, 7 qui dit certainement tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Donc il dit ici que le péché cherchait à contrôler et posséder Caïn, mais qu'il dominerait sur lui, l'idée que le péché voulait conquérir Caïn. Donc, ce que nous apprenons, c'est très important ici, c'est que la malédiction sur Ève s'est traduite en fait par un renversement des rôles sur qui allait contrôler qui. Je vous donne une paraphrase du verset 16. Femme, tes désirs, à partir de maintenant et de la malédiction, à cause de ton péché, vont être de vouloir contrôler ton mari. Et tu surfais son rôle, mais lui va réagir et il va dominer sur toi. Il refusera ton contrôle et il dominera sur toi et il t'écrasera s'il le faut pour te débarrasser de ton autorité sur lui. Voilà ce que ça veut dire ici. Voyez-vous, à partir de la chute, la soumission volontaire et joyeuse de la femme envers son mari qu'on a vu dans le jardin d'Éden, est maintenant remplacé par un désir de vouloir contrôler son mari. Et le leadership d'amour et de la joie du mari auprès de sa femme, dans le jardin d'Hélène, est remplacé maintenant par le désir d'écraser sa femme, par le désir de la tyrannie, la domination, la manipulation et la vue. Bienvenue au début du mouvement de la libération de la femme. Il a commencé ici, au XXe siècle. Il a commencé dans Genèse 3. Absolument. Voici la source de tous les problèmes de couple qui peuvent exister. Et du renversement des rôles entre les deux. Les mariages à partir de là sont remplis de tensions, de rivalités, de dissensions et de querelles. Voyez-vous, à partir de ce moment-là, la femme n'est plus satisfaite de son rôle d'aide envers son mari, mais veut s'imposer, veut se mettre en avant, veut mener, veut contrôler, veut conduire. Elle veut dominer son mari et parfois même le considérer incompétent. Alors les maris, ils n'aiment pas ça quand ils réagissent. En indiquant leur responsabilité de leadership, eh bien, ils s'absentent du foyer par leur travail, le sport, l'alcool, et pour certains, ils reviennent avec abus vis-à-vis de leur femme, de manière émotionnelle, voire physique. Et ça, on a pu déjà certainement vu autour de nous. Et certains hommes vont réagir, considérer leur femme rebelle, et ils vont l'écraser. Alors, regardez l'histoire. Les femmes sont souvent écrasées par les hommes. Les femmes battues. Oui, depuis ce jour, que ce soit dans le couple ou dans la société, tout a été chamboulé. Regardez le taux de divorce. Vertigineux. Les gens, ils n'arrivent plus. Parce qu'ils disent, de toute façon, ça va terminer en divorce. La probabilité que ça va divorcer, donc pourquoi se marier? Vous connaissez ça, et vous connaissez. Alors, quelle est la solution? Est-ce que nous sommes voués à cette misère de la malédiction? Alors, ce qui est génial avec la Bible, c'est que Dieu, dans le chapitre 3, a déjà donné la solution. Verset 15. Juste avant, regardez. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, c'est la bénédiction contre le serpent, entre ton lignage et son lignage, celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est ce qu'on appelle le proto-évangile. C'est ce qui est en train de dire ici que celui qui sortira du lignage de la femme, donc Jésus-Christ, va un jour écraser la tête de Satan. Alors lui, il va blesser le talon du Messie, d'accord, c'est un verset messianique, mais lui, un jour, va écraser Satan. Donc, c'est intéressant. En listant les malédictions, Dieu donne déjà la solution. Il dit qu'en Jésus-Christ, le Messie à venir, ses rôles peuvent revenir à la norme. Dieu promet déjà qu'il y a une solution promise pour le péché qui peut en quelque sorte recatapulter une personne qui vient à Christ dans un monde pré-chute, dans le monde du jardin d'Éden. Et là, ils peuvent recomprendre leur rôle respectif biblique et revenir un couple de faire comme Dieu l'a voulu. Et donc, c'est avec cette arrière-plan, justement, comme Paul dans Éphésiens 5, et là, c'est les versets classiques sur le sujet, il dit quoi? Femme, verset 22, hein, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Il n'y a qu'un chrétien qui connaît Jésus-Christ qui peut lire ce verset, une femme chrétienne, et dire Amen, Alléluia! Je connais Jésus-Christ, il m'a recatapulté par son pardon dans le jardin d'Éden, et aujourd'hui je comprends mon rôle, j'ai été créé pour être une aide honorable à mon mari, et donc femme que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et donc il est le sauveur. Vous êtes allé voir, vous lisez ça aujourd'hui, vous faites virer la société, quoi. Donc, ça c'est ce que vous dites, quand c'est au mari, verset 25, mari que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Il dit, messieurs, vous allez mener votre femme maintenant, mais comme Christ mène l'Église, c'est en sacrifiant pour elle et en l'aimant comme un frère charmant. Vous voyez, c'est super en fait. L'Évangile change la donne. L'Évangile change tout. Au niveau marial, l'homme et la femme retrouvent leur rôle respectif en Christ, lui-même dans l'amour, elle suit, elle dans l'amour. Ils sont heureux, satisfaits, épanouis dans leur rôle respectif de l'heure. Et au niveau de l'Église, l'homme et la femme comprennent également quel est leur rôle respectif, décrit clairement par Dieu dans le Nouveau Testament, sont heureux de leur rôle, satisfaits, épanouis de leur rôle respectif de l'heure, et ils comprennent les versets qu'on va regarder demain matin et les appliquent avec foi. Alors, après la chute, ça c'est le troisième point, je crois, dans le premier point du corps, la dignité de la femme retrouvée après la chute. Il y en a, c'est pas sûr. Alors, bien sûr, la femme est remplie d'exemples. Non, excusez-moi, la Bible est remplie d'exemples de femmes qui ont été des femmes de grande qualité, des femmes de Dieu, qui ont été utilisées par Dieu pour accomplir des choses extraordinaires. Et ça, on le regardera aussi dans quelques instants. Alors, regardez, maintenant, déjà les femmes de l'Ancien Testament. Alors, ce sont les femmes après la chute, d'accord? La dignité des femmes. Donc, ces femmes qui ont retrouvé leur compréhension du rôle. Les femmes qui sont mises en valeur en contraste avec les cultures avoisinantes, où les femmes étaient considérées au même niveau que la propriété. Les femmes étaient actives dans la vie religieuse d'Israël, mais de manière générale, elles n'étaient pas leaders, sauf pour quelques exceptions. Alors, je vous donne quelques-unes des choses qui sont merveilleuses par rapport aux femmes dans la Bible, par rapport aux cultures avoisinantes. Dieu a fait des alliances avec des femmes comme avec des hommes, Deutéronome 29. Les femmes étaient exigées d'écouter la parole de Dieu, lui à haute voix, Deutéronome 31. Comme les hommes, donc, hein, ça avait le même statut. Les femmes servaient à la porte du tabernacle, Exode 38. Les femmes offraient leur propre sacrifice, Lévitique 1, 2 Samuel 2. Les femmes priaient directement à Dieu, Genèse 16, Juges 13. Les femmes pouvaient devenir des nazaréennes dévouées à Dieu, Nombre 6. Les femmes pouvaient devenir des sages, 1 Samuel 25 et 2 Samuel 14. Les femmes pouvaient devenir des juges dans certains cas, comme Déborah qui était également prophétesse et épouse, dans Juges 4, on y reviendra. Les femmes ne pouvaient pas être vendues même si elles étaient capturées en guerre, Deutéronome 21. Ce point, à lui seul, révèle un contraste énorme avec les cultures avoisinantes. En tant que parent, la femme était égale à l'homme du fait que les deux devaient être honorés par leurs enfants, Exode 20. L'instruction de la mère était tout aussi importante que l'instruction du père, Proverbe 1:8. Proverbe 31 appelle la femme qui craint l'Éternel plus précieux que de bijoux précieux. Et le fait d'activité de la femme vertueuse dans Proverbe 31, une femme travailleuse dont le foyer était sa priorité, une femme classe et de qualité, une femme hautement honorée par son mari et par ses enfants, n'y avait rien de dégradant vis-à-vis de la femme dans l'Ancien Testament, du tout. Dans cette adaptation, avec cette dignité de la femme, dans l'Ancien Testament, les rôles étaient bien compris. Bien compris, la dignité de la femme, les différents des rôles n'étaient pas du tout abolis. Le leadership du mari était la norme, et la législature de l'Ancien Testament le démontre dans certains domaines. Alors, quand il y a des femmes entre les deux testaments, il n'y a pas beaucoup qu'on sait, mais les relations se sont sérieusement détériorées. Mais qu'en est-il des femmes et Jésus? Les femmes et Jésus. Okay. La manière que Jésus a traité les femmes, avec dignité, tout simplement, c'était choquant et révolutionnaire. Avec la femme samaritaine, dans Jean 4, non seulement les disciples, mais elles aussi étaient surprises que lui lui adressait la parole. Jean 4, 9 et 27. Non seulement est-il parlé avec les femmes, mais il les enseignait les guérissait. Ça, c'est révolutionnaire. Est-ce que Jésus pensait qu'une femme devait être à la cuisine au lieu d'être à l'école, en ce moment, voici le Marc et Marie. Parce qu'il y a leur mari qui l'écoute au lieu de Marc qui était trop occupé à la cuisine. Luc 10. Dans Luc 13, Jésus honore une femme en l'appelant fille d'Abraham au titre doté de grand honneur. Les femmes ont fait partie de son entourage depuis le début de son ministère. Dans Luc 8, il est dit que les femmes le suivaient et le soutenaient financièrement. À l'époque, Jésus et les Juifs ne permettaient d'habitude pas aux femmes de rendre de la monnaie, de peur que la femme n'y touche et qu'elle serait contaminée. Or, Jésus touche les femmes pour les guérir et permettait même aux femmes de le toucher, Luc 13. Et après sa résurrection, Jésus a en premier apparu à Marie Magdalène et l'a envoyé, elle, informer les disciples de la résurrection. Écoutez, la première personne qui a vu Jésus ressuscité, c'est une femme. Incroyable. Surtout que les femmes n'avaient pas le droit d'être témoins dans le pays, c'est-à-dire qu'elles étaient toutes considérées mauvaises. Jésus n'a fait qu'hausser la dignité de la femme en montrant compassion et espoir. Ceci dit, Jésus n'a jamais exalté les femmes à une position de leadership au-dessus des hommes. Et dans le livre des Actes, on voit l'auteur du livre des Actes, Luc, lui aussi prend grand soin d'être des femmes dans l'avancement de l'évangile dans le monde. Des femmes qui devaient être séparées des hommes au temple, se retrouvent avec les hommes en train de prier dans Actes 2, dans la chambre haute. Hommes et femmes qui crurent en Jésus, furent baptisés, furent persécutés pour leur foi, dans Actes 5, 8 et 9. Tabitha est honorée comme ayant été une femme pleine de bonnes œuvres et d'actes de charité. Elle a été même ressuscitée des morts. Lydie fut la première convertie en Europe, et aussitôt qu'elle fut convertie, elle invita Paul et son entourage à loger chez elle. Que dire de Aquila et Priscille qui ont instruit Apollo, et les Captives qui les prophétesses dans Actes 21. Oui, vous voyez, les femmes sont honorées et bien présentes dans le livre des Actes. Et dans les Épîtres, c'est exactement pareil. Dans le Nouveau Testament, de A à Z, les femmes sont honorées. Alors, mes amis, vous venez d'entendre l'introduction du rôle de la femme. Voilà. Parce que ce qu'on voulait vous montrer ce soir, mes amis, c'est que l'homme et la femme, aux yeux de Dieu, sont 100% égaux. Et ça, on le voit à manger. Égaux dans leur être spirituellement, alors physiquement, ils sont différents, bien sûr. Mais ils sont égaux dans leur dignité devant Dieu, dans l'acte de création. Pourtant, ils ont des rôles différents. Et c'est ce qu'on voulait souligner ce soir. Que ça fait partie, c'est une partie inhérente de la constitution d'un homme et d'une femme. Nous sommes différents. Ça, je vais le redire. J'ai toujours dit aux gens, vous savez, c'est marrant. Nous avons eu trois enfants, on les pousse. C'est elle qui a eu les trois enfants. C'est pas moi. Moi, j'ai découvert un truc. Je ne peux pas mettre un enfant. C'est pas possible. Et vous savez quoi? Ça ne me frustre pas. Je suis satisfait avec le fait que je ne peux pas mettre un enfant au monde. Je suis très heureux qu'elle a pu mettre un enfant au monde. Moi, je ne peux pas. C'est simplement, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Donc, mais physiquement, nous voyons que Dieu nous a créé avec une capacité de rôle différent. Et donc, ce qu'on veut voir, c'est que, avant la chute, c'était quelque chose de ok. Satisfait. Et la chute est arrivée, et là, il y a eu un renversement de rôle. Ça va être intéressant de vous penser, je pense maintenant. Aujourd'hui, les hommes font tout pour pouvoir avoir des bébés. Vous avez remarqué? C'est un renversement total de rôle. Les hommes veulent des femmes, les hommes veulent des bébés, les femmes veulent des hommes. C'est le renversement, c'est Genèse 3 qui fait ça. Et on n'y comprend plus rien. On regarde la télé, on écoute ces reportages, on dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Genèse 3, 16. La source est là. Du coup, l'homme est plus satisfait avec qui il est, la femme est plus satisfaite avec qui elle est, elle veut être comme l'homme, l'homme est comme la femme, il y a un renversement de rôle, et là on comprend pourquoi les mariages éclatent. Et pourquoi tellement de choses éclatent. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que déjà dans Genèse 3, 15, Dieu a dit, il y a une solution. Le péché a tout fiché en l'air, mais il y a une solution au péché, et cette solution c'est Jésus. Et une fois que quelqu'un, par la foi, reçoit Jésus-Christ comme son Lord et Seigneur, eh bien, son péché est pardonné, il est lavé, il est en quelque sorte catapulté de nouveau en arrière, et il retourne dans le jardin d'Éden spirituel. Et là, il commence à dire, waouh, maintenant je comprends que je suis un homme, et maintenant je vais consulter le manuel pour voir comment un mari et un homme devraient se comporter. La femme apparaît, ah, trop génial, maintenant je suis une femme, je comprends en Christ que je suis une femme, et que j'ai la dignité de ça, donc je vais regarder dans les yeux et voir ce qui est bien mon sujet. Et maintenant, puisque le cœur est changé, on se soumet avec joie à ce que Dieu a parlé. Donc ça, c'est ce qu'on a dit ce soir. C'est pour ça qu'on voit dans tous ces exemples de la femme, parce que c'est le but, de montrer combien la femme était honorée avec dignité dans l'Ancien Testament et dans l'Ancien Testament. Alors, demain, ce qu'on va faire, on va revenir et on va regarder en détail dans le matin le texte qui est sur le rôle de la femme dans l'Église, dans 1 Timothée 2. D'accord? Alors, si vous voulez lire avant de lire demain, ce serait très bien. Et là, on va regarder ce que la Bible dit sur le rôle de la femme dans l'Église. Et j'espère que ce sera vraiment intéressant. Et demain après-midi, on continuera avec des questions pertinentes et clés qu'on va essayer de répondre avec un bon temps de réponse. J'espère que ceci a été utile ce soir et que vous êtes encouragés par qui vous êtes en Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.